France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Nikit Saint-Phal au cœur des nanas. En 1983, la ville de Paris, le ministère de la Culture et le centre Pompidou inaugurent la fontaine Stravinsky dans le quartier de Beaubourg. Une œuvre créée par le couple Nikit Saint-Phal et Jean Tinguely, composée de 16 sculptures majestueuses, 16 corps de femmes noires ou blanches qui semblent danser et transcender la pesanteur. Visuellement, c'est une explosion de couleurs et qui fera date. Regroupées sous le nom de Nana, elles inscrivent le style de Nikit Saint-Phal. On les retrouve dans les musées du monde entier et sur de nombreux produits dérivés. Mais derrière cet art sympathique et démocratique se cache une part d'ombre terrifiante que l'artiste ne révélera qu'en 1992, à l'âge de 62 ans, dans son livre nommé « Mon secret ». De son enfance aristocratique à ses premières œuvres d'autodidacte, de son séjour en hôpital psychiatrique à ses premiers scandales, retour sur le parcours spectaculaire de Nikit Saint-Phal, mené par un seul désir, s'affranchir. Notre invitée aujourd'hui, Sophie Duplex, conservatrice en chef des collections contemporaines au Centre Pompidou et commissaire de l'exposition Nikit Saint-Phal, Jean Tinguely, Pontus Sultan, jusqu'au 10 janvier, c'est au Grand Palais à Paris. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donante, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Paris, juin 1977. Il règne une ambiance de fête foraine au cœur de la capitale. Après des années de travaux et de polémiques, le centre Pompidou ouvre ses portes et propose une installation étrange. Son nom, le Crocodrome, jamais vu dans un musée. C'est-à-dire qu'au cœur même du forum, c'est un gigantesque monstre de fer qui accueille le public. Un animal hybride de 30 mètres de long et 10 de large, créé par un trio d'artistes inconnus du grand public. Ils se nomment Jean Tinguely, Nikit Saint-Phal et Bernhard Lünguinbühl. Mais ils signent leur œuvre Zigepus. C'est plus simple. Ce monstre, ils le décrivent comme un édifice mi-dragon, mi-navire, mi-caverne, mi-palais. Et de fait, on est loin des vernissages classiques avec cimaises bien ordonnées. Et que dire des sensations qui s'emparent des visiteurs ? Lorsqu'on les invite à entrer à l'intérieur de la bête et à s'asseoir dans des wagonnets de fer façon train fantôme. À l'intérieur du monstre, un flipper géant, un circuit de boules métalliques, des chocolats distribués aux enfants, une œuvre est faite. En 6 mois, le Crocodrome attire 120 000 spectateurs, soit 30 000 de plus que l'accrochage inaugural consacré à Marcel Duchamp, c'est dire. Un succès porté par Jean Tinguely, l'un des trois artistes, qui déclare: notre création s'adresse prioritairement aux enfants. Ils sont bruyants, subversifs et ils crient fort quand ils sont contents. Et quand ils ne sont pas contents aussi d'ailleurs. Quant à sa comparse Nikit Saint-Phal, la voici qui s'affirme au micro de France Culture.
Je pense que mon travail a toujours été beaucoup plus accepté par la masse des gens que par les intellectuels. C'est toujours eux qui ont crié, ou les pseudo-intellectuels, c'est toujours eux qui n'ont pas aimé. Mais si on amène n'importe qui, des gosses, ou, eh bien les gens, ils étaient très heureux. Je pense qu'au fond, dans un certain sens, je suis un artiste populaire, dans le sens pas pop, mais populaire. Et alors, dans ce sens-là, que les gens, ils peuvent retrouver leur rêve dedans. Par exemple, dans une des maisons, il y a des serpents, des machins, et chacun raconte son cinéma. Je veux dire, chacun en a un autre, et il raconte. Mais pour une raison, les gens qui travaillent beaucoup les nénettes, eh bien ça les irrite. Et alors je crois que c'est surtout ceux-là qui n'aiment pas tellement.
En effet, nombre de critiques émergent. Les autorités s'étranglent. Comment ça, des enfants qui crient dans un musée, mais quel scandale ! C'est pas de l'art ! À leurs yeux, cette installation opère comme une provocation, un contre-pouvoir qui remet en question tout leur travail. Et c'est exactement ce dont rêvait Pontus Sultan, le directeur de ce tout nouveau centre Pompidou, démocratiser l'art en le rendant accessible à un public profane. Nous sommes en 1977, la France change, mais qui pour bousculer les diktats ? Qui pour attirer les foules ? Qui pour faire chavirer le cœur de la nouvelle génération ? À vrai dire, il n'a pas eu à réfléchir longtemps. 10 ans auparavant, en juin 66, et tandis qu'il dirigeait le Moderna Museet de Stockholm, c'est à ces mêmes artistes qu'il avait fait appel. Ponty Sultan ferme les yeux et se souvient de cet été 66. Face à lui, Nikita Saint-Phal. Il est immédiatement conquis par son allure à la fois gouailleuse et chic, mais surtout, il y a ses idées stupéfiantes, alors qu'il n'est qu'une autodidacte. Il est alors obligé de la cacher, elle et son équipe, le temps de la préparation de l'exposition. Car il le sait, elle risque de faire scandale. C'est donc dans un climat fébrile que ce projet suédois se réalise. Il se nomme « Un en cathédrale », ce qui signifie « Elle, une cathédrale ». Il s'agit d'une femme allongée sur le dos, les jambes légèrement pliées, une femme multicolore aux dimensions pharaoniques. Il faut imaginer, 27 mètres de long, 9 de large et 7 de hauteur, une vraie déesse rabelaisienne que Nikki nomme Nana. Très bien. Alors où est le problème ? Eh bien, c'est cette invitation à y pénétrer par son entrejambe, le problème. Stupéfaction des visiteurs. Oseront-ils entrer à l'intérieur de son corps, par son vagin ? Et que signifie une telle proposition ? Certains y voient une terrible transgression, d'autres, une invitation à la joie. Car c'est peu dire que l'intérieur du corps de la nana est paradisiaque. Un vrai parc d'attractions. On y trouve une salle de cinéma, dans laquelle on peut voir un film de Greta Garbo, une galerie de fausses peintures de Picasso, un toboggan, un bassin de poissons rouges et même un bar. Que de joie dans le corps de nana. Explication. Dans ce documentaire intitulé « Nikita Saint-Phal, un rêve d'architecte » produit par Ideal Audience et RMN Grand Palais.
Je ne sais pas combien de mètres de long elle avait, mais elle était énorme, cette bonne femme. En somme, c'était presque une cathédrale, parce que c'était presque une déification de la femme. Alors, dans ce sens-là, ça s'approchait à une chose spirituelle. Elle était joyeuse à l'extérieur comme un œuf de Pâques, et aussi à l'intérieur, il y avait plein de différentes attractions. Les enfants adoraient, tout le monde allait là-bas, je veux dire, pour... C'était une sorte de libération.
Résultat, 100 000 visiteurs en 3 mois. Autant dire un triomphe à l'échelle de la capitale suédoise. Et là, certains qualifient Ponty Sultan de pornographe et Nana de plus grande prostituée du monde. Cause toujours, Nikki hausse les épaules, elle a l'habitude. Et elle le répète, à ses yeux, Nana est l'incarnation de la joie.
Elles sont libérées de toutes ces conneries, sentimentalité, mariage, masochisme. Tout simplement, elles sont elles-mêmes. Elles ne sont pas écrasées, elles n'ont absolument pas besoin de mecs, elles sont là toutes seules, elles sont indépendantes, elles sont joyeuses.
Mais d'où vient ce désir de crier à la face du monde que les femmes doivent se libérer du patriarcat ? Eh bien tout simplement de sa propre expérience. Ça fait 30 ans qu'elle se bat contre les violences familiales. Elle naît dans une famille illustre. Sa mère est une riche américaine, une femme du monde, aux yeux aigues marines et au parfum tenace. Son père est un aristocrate issu de la 13e plus ancienne famille de France, fier de sa lignée de son château implanté dans la Nièvre. Mais la discipline y est rude. Papa me raconta un jour que grand-père avait toujours un fouet à la main destiné à ses fils au cas où ils auraient manifesté la moindre insubordination. De cette éducation, l'homme tirera un désir de fuite en s'installant à New York pour y créer la banque Saint-Phal. Il en tirera aussi un certain désir pour la transgression, nous y reviendrons. C'est précisément dans ce château de la Nièvre que Nikki passe ses 3 premières années, loin de ses parents qui sont repartis à New York avec son frère aîné. Ses premières visions, la grandeur du château, le regard franc de son grand-père, la densité des forêts et les contes qui y sont associés. Puis vient le choc de l'urbanité lorsqu'elle rejoint ses parents dans l'Upper East Side, à New York. Plus tard, c'est avec ces mots qu'elle décrira sa double culture. « J'aime toutes les couleurs, le côté relax américain et l'intellectualisme français. Mettez tout ça dans un bol, prenez une cuillère et remuez, il en sortira un gâteau qui s'appelle moi. » C'est donc une chance de grandir dans cette famille à la double culture. Pas vraiment en vérité, car l'enfance dorée comporte sa part d'ombre. Ce style relax dont elle parle n'est pas du tout à l'ordre du jour, au contraire. Ses parents l'envoient au couvent du Sacré-Cœur de Manhattan, où la mentalité puritaine la révolte.
J'étais impossible, je supportais tellement pas ce genre d'éducation que j'ai trouvé très vite comment me défendre. Alors j'avais une défense passive, je faisais des grimaces comme des tiques pour que je puisse aller manger à la cuisine. J'ai peint les zizi rouges de toutes les sculptures à l'école. J'ai presque été renvoyée je ne sais pas combien de fois. Et j'étais athée très jeune. Je n'y avais que des problèmes. Pour emmerder les bonnes sœurs, je m'écrivais des lettres d'amour à moi-même. On téléphonait à ma mère, quoi. Je veux dire, j'étais vraiment une vraie révoltée.
Il faut dire qu'à l'école comme à la maison, l'ambiance est loin d'être plaisante. Elle est même glaciale. Figée dans des représentations arriérées. Les enfants ont le droit d'être vus, mais jamais entendus. Autrement dit, un mot de travers et c'est une gifle. Peu à peu, et tandis que son père étend son autorité, Nikki voit sa mère se rétracter. À cette époque, même les femmes aisées peinent à sortir du rôle qui leur est assigné. En témoigne cette américaine au micro du 3ème œil sur l'ORTF.
Une grande maison comme la vôtre doit être lourde à entretenir.
Pas tant que ça. Je dispose de tous les appareils ménagers modernes et je m'en sors sans y consacrer trop de temps.
Vous avez beaucoup de temps libre?
Oui, et ça me pose des problèmes. Je ne passe pas le plus clair de mes journées en ménage et en cuisine comme les autres femmes. Et ce n'est pas toujours facile d'employer mon temps de façon vraiment intéressante.
Plus tard, Nikki écrira « J'étais un peu amoureuse de ma mère quand je n'avais pas envie de la tuer. Je la voyais prisonnière d'un rôle imposé. Un rôle qui se transmettait de génération en génération selon une longue tradition jamais remise en question. L'idée de devenir comme elle me terrorisait. Chaque soir, à l'heure du dîner, c'est à un bali hypocrite auquel les enfants assistent. Une mascarade que la jeune Nikki évite en allant dîner en cuisine auprès de la bonne noire. Tout est bon, en somme, pour échapper à ce couple infernal.
Ma mère avait un placard où elle rangeait le linge. Et je me rappelle un jour, je la regardais ranger, je dis « Moi, je ne ferai jamais ça quand je serai grande. Jamais, jamais je ne compterai du linge. » Elle m'a giflé. Et mon père était un homme avec du charme, qui avait une certaine imagination. C'était un homme très coureur, qui aimait beaucoup les femmes. Alors, tout le monde y passait. Les amis de ma mère, la bonne qui était devenue ma copine. On n'aime pas, quand on est une fille, de voir son père qui saute tout le monde. Je veux dire, ça fait des conflits terribles. Et on n'aime pas avoir une mère qui est forte et qui passe son temps à compter le linge.
Nikki a 12 ans. Et déjà, elle sait qu'elle ne deviendra pas comme sa mère. Elle sera même tout le contraire. Mais elle sait aussi autre chose. Qu'elle ne pourra plus jamais faire confiance à son père. Elle le sait, depuis ce qu'elle nommera, des années plus tard, l'été des serpents.
Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it's still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. When you're gone and spent its relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, 'cause he's got his own.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Niki de Saint-Phal.
Je veux faire ma création à moi.
Affaires Sensibles.
Je sais pas, c'est quelque chose qui vient, c'est une image, une émotion, je me fiche des détails.
Je voulais que ma vie soit difficile et excitante. Je voulais que ce soit grand.
Ça va être grand ta vie, Niki.
Fabrice Drouel.
Comme il fait chaud en cet été 42. C'est pourquoi la famille de Saint-Phal a loué une belle maison blanche à la campagne à une heure du New York. Une maison bordée de rochers où paraissent des serpents. C'est dans cette langueur qu'un jour, la vie de Niki de Saint-Phal bascule.
J'avais 11 ans et j'avais l'air d'en avoir 13. Un après-midi, mon père voulut chercher sa canne à pêche qui se trouvait dans une petite hutte de bois. Je l'accompagnais. Subitement, les mains de mon père commencèrent à explorer mon corps d'une manière tout à fait nouvelle pour moi. Honte, plaisir, angoisse et peur me serraient la poitrine. Mon père me dit « Ne bouge pas !» Et j'obéis, comme un automate. Puis, avec violence et coups de pied, je me dégageai de lui et courus jusqu'à l'épuisement dans le champ d'herbe coupée. Il y eut plusieurs scènes de ce genre cet été-là. J'avais beau me débattre, il était plus fort que moi. Mon amour pour lui se tourna en mépris.
Cet inceste est une déflagration. Car au-delà du choc, Niki pressent qu'il lui sera impossible d'en parler, que sa mère ne la croira jamais, que les sœurs du couvent, adeptes d'une double peine purement religieuse, la regarderont sévèrement, et que son père, bien sûr, n'ira tout en bloc. Alors, elle se tait et garde en elle le traumatisme d'avoir été violée par son père l'été de ses 11 ans. Voilà pourquoi elle se marie si vite, à 18 ans. L'idée étant de fuir cette maison sinistre et cette famille dysfonctionnelle. C'est sur un écrivain bohème qu'elle jette son dévolu, Harry Matthews, un jeune homme aussi brun et doux que son père était blond et dur. Rapidement, elle et lui quittent l'Amérique, dont les penchants macartistes les révulsent. Cap sur Paris, où rapidement, une petite Laura naît, suivie d'un petit Philippe. Alors, le bonheur ? Pas encore. Niki a beau s'être éloigné de ses parents, posé pour des magazines prestigieux comme Life ou Vogue. Quelque chose ne tourne pas rond dans sa nouvelle vie. Elle sent bien que le piège de la maternité se referme sur elle. Mais surtout, il y a cette sensation poisseuse qu'elle est menacée. Alors, c'est plus fort qu'elle. Voilà qu'elle cache des couteaux, des lames de rasoir et des ciseaux sous son lit, parce qu'on ne sait jamais. Bientôt, Harry l'amène chez un médecin qui diagnostique une dépression nerveuse. On la dirige vers un hôpital psychiatrique du sud de la France où elle subit une série d'électrochocs. La suite, c'est Harry Matthews qui la raconte dans Paris Review.
Dans cette clinique, elle a commencé à réaliser des petits collages avec de l'herbe, des pierres et des brindilles. Puis elle a commencé à peindre, abandonnant une carrière prometteuse de mannequin et d'actrice. Elle s'y est mise avec ardeur, ce qui m'a réjoui parce que cela signifiait qu'elle allait mieux. Ça m'a aussi rempli d'envie. J'ai dit « Mon Dieu, être capable de faire ce que tu fais, ça doit être le paradis. » Mais elle m'a répondu « Tu es fou. C'est toi qui es un merveilleux poète. Écris !»
Si l'art a opéré comme une puissante thérapie, Niki n'a aucune confiance en elle. Elle se souvient avoir été bouleversée par sa visite du parc Güell, érigé à Barcelone par Gaudi. Ses formes énormes, ses couleurs étincelantes. Voilà ce que je veux faire, avait-elle pensé. Mais comment procéder? Elle n'a jamais pris un cours de dessin. Pas grave, Harry l'encourage. Cet atelier d'artiste, là, dans l'impasse Ronsin, derrière l'hôpital Necker, pourquoi ne pas le louer? Bon, le site est vétuste. Pas d'eau, pas d'électricité, mais c'est un vrai repère d'artiste. Même Brancusi y a séjourné. Rapidement, Niki rencontre la bande des nouveaux réalistes. Il y a là César, qui compresse des objets, Martial Reiss qui sculpte des tubes fluorescents, Yves Klein qui lance ses anthropométries. Parmi eux, un sculpteur suisse au regard profond. C'est Jean Tinguely, comme en témoigne le journal Libération.
L'impasse Roncin est une adresse aussi rustique que mythique. Et c'est aussi le point de départ de ce couple de légendes. La fille, de très bonne famille, et le révolutionnaire en herbe, s'y sont rencontrés pour la première fois en 1956. Alors en visite à l'atelier de Jean Tinguely, dont les mécaniques métalliques sont déjà exposées près des œuvres de Marcel Duchamp, elle lui suggère de rajouter des plumes à une sculpture. Il est interloqué, mais déjà transi d'amour.
Difficile pour Nicky de résister à cet homme qui lui lance « Moi, je fais des machines qui ne servent à rien. La beauté de l'inutile. Quel aplomb !» Mais quelle douceur lorsqu'il lui assure que la technique, ce n'est rien et que le rêve est tout. Façon de lui assurer que pour elle, tout est possible. Or, cette nouvelle vie est incompatible avec son rôle de mère. Alors, un matin, à l'aube des années 60, Nicky s'enfuit et s'installe pour de bon dans l'impasse Roncin, tout près de Tinguely. Une vraie crise existentielle, c'est cruel, oui, mais c'est vital. Car il y a en elle cette violence qui ne demande qu'à sortir. Impasse Roncin, 12 février 61. C'est transit froid que la bande des nouveaux réalistes regarde Nicky s'emparer d'une carabine. C'est un 22 long rifle loué à un type lors d'une fête foraine. Tinguely et elle n'ont pas assez d'argent pour en acheter une, mais le désir est là, intense, et leur idée précise. Et bien deux jours plus tard, la fusillade commence. En effet, l'idée de Nicky est d'accrocher sur de grands panneaux de bois des objets de la vie quotidienne. Jouets en plastique, rasoir, tube de rouge à lèvres, spaghettis. D'y coller des sachets de peinture colorés, puis de recouvrir le tout d'un voile de plâtre blanc et de tout faire exploser. Elle est bonne tireuse, elle était à bonne école avec son grand-père, Nicky. Mais ici, point de référence à son illustre famille, non. Le but est de faire saigner le tableau, comme elle dit. Explication au micro de Jean Bève. Sur France Culture.
Mais moi, quand j'ai commencé à faire ces tirs, c'était l'idée d'utiliser la violence, l'idée d'imaginer un plâtre tout blanc et qui saignerait, une sculpture qui saignerait, une sculpture en larmes. C'était ça mon idée.
Quel exutoire ! Tous autour d'elle sont fascinés par le résultat. Alors chacun se passe la carabine pour faire saigner le tableau. Le critique d'art, Pierre Restany, est là, lui aussi, en costume-cravate. Il connaît Nicky, bien sûr, mais il ne l'a jamais prise au sérieux. Lorsqu'il a créé le collectif des nouveaux réalistes, il ne lui a même pas proposé d'y participer. Parce qu'à ses yeux, elle n'est qu'une jolie fille, fiancée Tinguely, voilà. De toute façon, il n'y a aucune fille dans ce collectif. Entre les lessives et la cuisine, comprenez qu'elle n'aurait pas le temps. Or, voilà que Restany soudain s'exclame « C'est aussi fort que dit Jackson Pollock !» en référence au grand artiste américain. Alors lui aussi s'empare de la carabine et participe au carnage. Dès le lendemain, les reporters affluent, Société du spectacle oblige. Même le journal Télé 7 jours s'y met. Il parle d'elle avec ces mots. Madame de Saint-Phalle pratique la peinture à l'œuf. Ce sera l'acheteur qui les cassera au revolver. Le commentaire est un peu condescendant, mais grand seigneur, le journal lui accorde une photo. C'est qu'avec son allure à la Jane Fonda, son phrasé aristocratique et son sens de la mise en scène, l'image de Nicky attire. Et ses happenings sont si fascinants. Mais la prend-on pour autant au sérieux ? Extrait des actualités françaises du 16 août 1961.
Nicky de Saint-Phalle, elle, fait de la peinture. C'est-à-dire qu'elle enfouit des sachets de couleurs sous une couche de plâtre. Après quoi, il ne reste plus qu'à libérer la couleur. À la carabine. Pourquoi pas ? Il y en a bien qui peignent au pistolet. Et voilà.
Oui, et voilà surtout comment on dénigre une œuvre bouleversante. Nous sommes au début des années 60 et le public rêve davantage d'une Marilyn que d'une pétroleuse. C'est la première fois qu'une femme invite à partager son agressivité. Et cela étonne et probablement déplaît. Alors Nick redouble d'ardeur pour montrer qu'elle est une vraie artiste. Dès 1962, on la retrouve à Amsterdam, à Los Angeles, Stockholm. Elle y présente une figure bicéphale, barbouillée de rouge et de rose, qu'elle nomme Kennedy Khrouchtchev. Puis c'est un King Kong monumental de 6 mètres qui apparaît, la gueule grande ouverte. Un vrai monstre que Nicky s'acharne une fois de plus à détruire. La même année, elle expose un hôtel composé d'armes, de chauves-souris et de serpents qu'elle baptise OAS, œuvre d'art sacrée, en référence à l'OAS en Algérie française. Mais qui s'interroge sur le motif de sa violence intime? En vérité, pas grand monde. On se contente d'évoquer une révolte contre la guerre ou contre la société de consommation, voire une lubie de jeune fille gâtée. Qu'en pense Nicky? Elle n'avoue rien. L'inceste est passé sous silence. Son père, pourtant, est fier de sa réussite. Il lui écrit régulièrement, mais elle n'ouvre plus aucune de ses lettres. Surtout depuis qu'en 1956, le médecin de l'hôpital psychiatrique a brûlé, solidarité masculine oblige, celle dans laquelle il avouait son forfait. Mais oui. Et depuis, Nicky a décidé de faire table rase du passé, notamment via sa carabine.
J'en avais marre de lire tous ces hommes qui ont fait des cathédrales, tous ces hommes dans l'histoire. Je voulais aussi qu'il y ait des femmes qui fassent quelque chose sur une échelle monumentale. Et je crois que ça m'a donné une certaine vitalité et de l'énergie pour pouvoir affronter ces problèmes de monumentalité.
En 1964, c'est la maternité qu'elle dézingue en proposant une série grinçante. C'est l'accouchement rose. Une femme dont le corps est colonisé par des avions, des fougères, tandis qu'une araignée fixée sur l'abdomen semble la dévorer, et surtout qu'un bébé en plastique sort de son entrejambe. L'ensemble est volontairement oppressant, mais une fois de plus, Bouti Sultan est séduit. Il l'achète 1000 dollars pour sa collection et l'encourage à continuer dans cette direction. Est-ce enfin l'apaisement de la colère de Nicky Sinfal ? Ou le désir de plaire, soudain au plus grand nombre. En 66, le chorégraphe Roland Petit la sollicite, ainsi que Martial Rice et Jean Tinguely, pour créer les 9 décors de son prochain ballet au Théâtre des Champs-Élysées. Son nom, Éloge de la folie. Voilà qui inspire Nicky. Or, là où on attend d'elle de la rage, voilà qu'elle surprend, comme le rapporte le journal Le Monde à l'issue de la première représentation.
20 ans après Les Forains, Roland Petit a retrouvé sa veine créatrice la plus heureuse. Car l'éloge de la folie s'impose comme un classique. Sur scène, se succèdent 9 folies, qu'il faudrait se graver dans l'esprit tellement elles sont intelligentes. Parmi elles, les femmes au pouvoir. Ce sont les fameuses nanas spirituelles de Nicky de Sinfal. Bibins d'hommes éléphantesques et polychromes, que leurs partenaires écrasés s'efforcent de faire valser sur les suites de Chopin. C'est très drôle. Avec l'éloge de la folie, les ballets Roland Petit tiennent un best-seller international, infiniment plus original que son précédent spectacle Notre-Dame de Paris.
Très drôle. Pourtant, Nicky dénonce avec force les injustices du monde. Mais rien n'y fait. Le public n'a Dieu que pour ses nanas. Elles se dandinent sur la scène, se font porter par les danseurs à bout de bras, et elles éclipsent tout le reste. Car si Nicky était sortie du bois en 61 en tirant la carabine, 5 ans plus tard, la voilà qui revient en créant de l'espoir. Un espoir énorme. Car ces nanas ne sont pas seulement blanches ou bariolées. Nombre d'entre elles sont noires, et elles dansent, façon de lutter pour l'émancipation des noirs. Dans la foulée, le fidèle Bouti Sultan accueille Oun à Stockholm, dans laquelle les visiteurs entrent avec joie, la joie que l'on sait et par où on sait. Il déclare « Les nanas sont entrées en scène sans se presser et Nicky leur doit sa célébrité. » Car soudain, en effet, sa popularité est immense. Voilà que sur l'île Saint-Louis, dans l'appartement du couple Pompidou, de grands fans d'art contemporain, une nana parade entre un Braque et un Miro. Les années qui suivent sont prolifiques. Son galeriste, Jean-Gabriel Mitterrand, l'assure au Figaro. Nikki était une rockstar à cette époque. C'était des années fastes avec des prix très soutenus. On vendait ses pièces uniques à 300 000 euros en Amérique et jusqu'au Japon. Les nanas emballent et se vendent en produits dérivés à la chaîne pour seulement quelques dollars. En quelques années, elles font oublier la série des tirs et surtout leur violence. En 82, Nikki organise à New York une soirée de lancement d'un parfum à son nom. Elle apparaît dans une robe dorée signée Marc Bohan pour Dior, coiffée d'une tiare reprenant le motif du parfum, deux serpents qui s'entrelacent. Les photos la montrent aux côtés d'Andy Warhol, dont le magazine parraine l'événement. Et à nouveau, le monde de l'art se gausse. Certains la trouvent vulgaire, too much. D'autres s'inquiètent. Triston l'overdose. Parce que ces nanas sont partout. En boutique, en parfumerie, dans mille galeries, sur la Fontaine Stravinsky et même à Château Chinon, dans le fief de François Mitterrand. Elles sont devenues sa marque de fabrique. En vérité, Nikki a besoin d'argent. Oh, pas pour s'enrichir, mais pour réaliser un projet pharaonique. Un jardin des tarots planté sur 5 hectares en Toscane, sur lequel des maisons nanas seront comme des refuges. Visite avec Valérie Duponchel pour Le Figaro.
Soudain, c'est le choc quand on pénètre dans ce royaume de l'imaginaire où chaque détail met en joie. L'endroit est une récompense du ciel. Qu'il pleuve ou que le soleil brille pour faire éclater plus encore les mosaïques de miroirs, de vers et d'émaux de toutes les couleurs qui recouvrent l'impératrice, 15 mètres de hauteur, le magicien, la grande papesse, le bassin de la roue de la fortune ou la tour de Babel.
Pour Nikki, c'est un rêve de jeunesse qui se réalise et qui se situe quelque part entre le palais du facteur cheval et le parc Güell de Gaudi, qui l'avait jadis ébloui. C'était avant la dépression, les électrochocs, la réalisation des tirs auprès de Tinguely. Que de chemin parcouru. Et que d'actes de conjuration dans le seul but de transcender cette erreur d'enfant. De fait, c'est durant la création de ce jardin, en 92, qu'elle se libère de l'omerta en publiant « Mon secret », une confession qu'elle adresse à sa fille, Laura.
J'ai eu des cauchemars obsessifs qui revenaient, mais ça m'a beaucoup bouleversée. Et puis j'avais ces secrets de famille que je ne pouvais pas raconter, qui m'ont menée en dehors de la société, parce que j'ai eu l'intelligence de ne pas raconter, parce qu'on m'aurait accusée d'être une menteuse et tout. Mais je pense que le plus important est de pardonner. Parce que si on vit quand même quelque part toujours avec une rancune, c'est très mauvais. Pour soi-même. Et donc, je crois que je me suis libérée et je vois mon père dans une plus grande perspective.
Le Jardin des Tarots, lui, ouvre ses portes en 1998 et devient le plus fréquenté de Toscane. On y trouve 22 sculptures, parmi lesquelles la mort, le diable, la luxure ou la justice. L'une d'elles, composée de petits miroirs et de passages secrets, a longtemps été habitée par Nikki durant les travaux. Son nom, l'impératrice. Aujourd'hui, Nikki de Saint-Phal, au cœur des nanas. Notre invitée, Sophie Duplex, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice en chef des collections contemporaines au Centre Pompidou et commissaire de l'exposition Nikki de Saint-Phal, Jean Tinguely, Pontisultone, qui se tient jusqu'au 10 janvier prochain à Paris.
4 janvier.
4 janvier prochain. J'avais envie que ça dure plus longtemps, donc c'est le 4.
Merci.
C'est pas moi qui décide. Donc c'est au Grand Palais à Paris. D'abord, quels sont vos premiers souvenirs de l'œuvre de Nikki de Saint-Phal ?
Alors mes premiers souvenirs, je crois qu'ils remontent aux années 80, lorsqu'on a pu voir la Fontaine Stravinsky, donc à Paris, quelque chose de complètement extraordinaire, vraiment une merveille d'interaction entre ces sculptures de Tinguely et de Nikki de Saint-Phal en plein cœur de Paris, avec ses jets d'eau. Et vraiment, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et puis... La deuxième chose, c'était les nanas gonflables de Nikita Saint-Phal qu'on pouvait acheter dans les magasins. Et je trouve que c'est intéressant parce que ce sont vraiment deux aspects qui montrent précisément cette dimension d'artiste populaire, hein, comme elle le disait tout à l'heure, hein, de Nikita Saint-Phal. Voilà, à la fois s'exprimer dans l'espace public, offrir son travail à tout le monde, elle y tenait énormément, hein, elle l'a dit. C'était vraiment son fer de lance. Et puis, voilà, et puis diffuser aussi son art à travers des formes tout à fait simples, hein, comme sont ces nanas gonflables qui sont joyeuses et accessibles à tout le monde.
Joyeuses, c'est-à-dire que son art renvoie essentiellement de la joie, je trouve.
Alors voilà,
pas toujours, mais essentiellement.
Elle tient à ce que son art soit joyeux, hein, comme on l'a vu, sa vie n'a pas toujours été joyeuse, mais c'est vrai que c'est une femme extraordinaire, parce que non seulement, et il y a un aspect que vous n'avez peut-être pas abordé, non seulement elle a eu ce traumatisme qui n'explique absolument pas tout son art, hein, je tiens à le préciser, cette réaction vis-à-vis de sa mère qui voulait faire d'elle une femme au foyer, et c'était tout le contraire de ce qu'elle voulait, donc tout ça, effectivement, c'était quelque chose qu'elle ne voulait pas.
Vous étiez parti sur ce que vous n'avez peut-être pas abordé, c'était quoi ?
Et ce que vous n'avez pas abordé, oui, c'était ses problèmes de santé. Elle a eu des problèmes de santé aussi toute sa vie, contre lesquels elle a dû lutter. Notamment, elle avait une fragilité pulmonaire qui a été aggravée par le fait qu'elle utilisait de la résine, donc à partir du milieu des années 60 pour ses sculptures, oui, sans protection. À cette époque, on ne savait pas qu'il fallait se protéger pour utiliser ce genre de matériaux. Et puis après, elle a eu de l'arthrite rhumatoïde, je crois que c'est ça le terme, justement au moment où elle entame le jardin des tarots, l'a fait énormément souffrir. Donc à la fois elle veut réaliser ses rêves, elle a une ambition extraordinaire, elle veut faire grand, comme elle disait, elle veut faire grand, monumental, elle veut nous offrir vraiment des choses formidables, mais elle doit lutter contre tout ça avec une force donc complètement remarquable.
Parlons de la dimension politique de son œuvre. Elle n'a pas seulement œuvré à l'émancipation des femmes et des Noirs dans la société, en somme, à l'émancipation des minorités. Elle a aussi lutté contre la guerre et, dès les années 80, contre le sida. Racontez-nous.
Alors, effectivement, je dirais que sa lutte, elle est moins politique au sens où elle va s'engager. D'ailleurs, si on parle de la question féministe, par exemple...
Oui, j'allais y venir, donc allez-y.
Vous allez y venir, on peut peut-être en parler maintenant.
Ouais.
En fait, ce qu'elle fait, c'est vraiment à travers son art. C'est-à-dire qu'elle ne va pas aller dans la rue militer avec les mouvements féministes. C'est pas son truc. Mais elle va justement créer des nanas qui sont des femmes qui assument leur féminité, les poitrines généreuses, les hanches larges, tout ça, et en plus elles dansent, elles sont légères, tout en étant très, très monumentales, donc il y a effectivement cet aspect-là. C'est vrai que c'est à travers son art qu'elle exprime son engagement. En ce qui concerne le sida, elle a fait des livres qu'on pourrait appeler livres d'artiste, en quelque sorte, dont le premier est sorti en 1986.
Au cœur de l'épidémie, hein, vraiment.
À travers ce livre, elle explique avec des choses très simples, des dessins très accessibles, ce qu'on peut faire et pas faire. Et en fait, aussi, il y a une manière de réinventer l'amour. Il peut y avoir des caresses, de la tendresse dans l'amour, et on n'attrape pas pour autant le sida. Après, elle va publier ce livre en français également, et puis elle va, avec son fils, donc réaliser un film d'animation. Donc ce sont quand même des pratiques artistiques au travers desquelles elle exprime sa lutte contre justement à la fois les personnes défavorisées et les personnes stigmatisées.
Son film d'animation, c'est Un rêve plus long que la nuit ?
Alors, c'est pas ça.
C'est pas ça.
Le film d'animation, c'était vraiment sur le sida. Un rêve plus long que la nuit, ça c'est une belle aventure 76, cinématographique.
Là, je crois, oui.
Voilà, ça sort en 76. Alors, elle commence à le tourner au milieu des années 70. Alors, elle avait déjà fait une première tentative de film qui n'avait pas abouti, qui s'appelait Nana Island. Et puis après, elle s'engage avec le cinéaste Peter Whitehead dans ce rêve plus long que la nuit, qui à l'origine s'appelait Camélia et le dragon, qui raconte l'histoire du parcours initiatique d'une jeune fille qui veut entrer dans le monde des adultes et qui va découvrir l'amour. Et alors, c'est un film, mais vraiment complètement déjanté, dans lequel elle se moque de la masculinité. Et c'est toute une bande de copains qui participent au tournage de ce film, dont Jean Tinguely, qui va inventer des machines incroyables, des machines pénis, et tout ça sur un ton extrêmement loufoque. Et donc, c'est vraiment un film très, vraiment très singulier, qui malheureusement ne trouvera peut-être pas son public, parce qu'il est considéré, il n'est pas bien distribué à l'époque, et il est un peu considéré comme un film d'artiste, donc
expérimental.
Voilà, plutôt expérimental.
On ne comprend rien.
Mais il a été restauré récemment, il a été diffusé par MK2,
oui,
et vraiment, ça vaut la peine.
Bon, alors, en complément de ce qu'on disait concernant les femmes, Martial Reis, qui faisait partie des nouveaux réalistes, disait d'elle, la plupart des femmes essaient de faire un art masculin et se sentent insultées quand on leur dit que leur travail est féminin. Eh bien, le travail de Nikki est toujours féminin et elle est heureuse.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Sophie Duplex, dans le livre Nikki de Saint-Phalle, Jean Tinguely, Pontus Sultaine, édité par Grand Palais Éditions, et dont vous avez dirigé l'écriture, il est noté, on parle d'anarchisme joyeux. Expliquez-moi ça. J'aime bien anarchisme joyeux.
Anarchisme joyeux. Oui, c'est un terme qu'on peut appliquer en fait à Pontus Sultaine et à Jean Tinguely. En fait, l'idée c'est finalement d'avoir un esprit anarchiste, mais là encore, pas nécessairement aller dans la rue, pas nécessairement agir de façon politique, mais infiltrer pour ce qui était des artistes tout leur art, et pour ce qui était de Pontus Sultaine les musées, avec cet esprit un peu débridé et qui voulait faire exister la liberté, l'autonomie de l'individu, et ils ont vraiment mis en œuvre à travers leur création pour les artistes et leur et la manière dont Pontus Sultaine a dirigé les musées, donc cet esprit d'anarchisme joyeux qui est d'ailleurs le crocrodrome de Zig et Puce que vous avez évoqué, oui, au début, était vraiment complètement emblématique de cet esprit.
Alors, on l'a dit, hein, son œuvre ne reflète pas totalement, ou son traumatisme familial n'a pas inspiré toute son œuvre, hein, on l'a dit. C'est quand même central. Elle a dit, Nikki de Saint-Phalle, si je n'avais pas fait de l'art, j'aurais pu devenir terroriste. Quelles ont été les réactions à la publication de son livre, Mon secret? Je rappelle, c'était en 92.
Alors, ce livre, Mon secret, c'est en 94, en fait, plus précisément, c'est important parce que là, elle est retournée vivre aux États-Unis, en fait, à partir de 1993, justement pour, d'abord, Tinguely est décédé en 91, donc elle a peut-être moins de raisons d'être en France. Elle va aux États-Unis aussi pour ses questions de santé, pour trouver un climat plus favorable. Et elle va donc publier Mon secret en fait en français, hein, alors que en fait elle est aux États-Unis. Donc c'est on peut pas dire que c'est un livre qui va avoir une grande diffusion. Il va être quand même plus confidentiel. Je pense qu'on peut pas parler d'une réception, voilà, qui va faire, qui va être très
apprécié.
Enfin apprécié, en tout cas, qui va être assez confidentiel,
ouais,
malgré tout.
D'accord. Alors, vous connaissez Catherine Morino?
Alors, Camille Morino, bien sûr.
Camille Morino.
Camille Morino, oui, commissaire donc de l'exposition.
En 2014.
Absolument.
Bon, ça c'est juste, au moins. Alors, elle dit d'elle, elle a tué son inceste car elle ne voulait pas apparaître comme une victime. Vous partagez ce point de vue?
Alors, c'est vrai ce qu'elle dit, je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire, mais au-delà de ça, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte chez Niki de Saint-Phal, c'est le fait que précisément elle descendait de cette famille de la noblesse, et il y avait une tradition de chevalerie dans sa famille, et elle a toujours écouté ses récits de chevalerie quand elle était petite, et elle, ce qu'elle veut, c'est être un héros au féminin. Donc, toutes ces grandes choses qu'elle veut faire, c'est parce qu'elle veut s'inscrire, en fait, aussi dans cette famille, et être ce héros. Donc, en effet, elle ne veut pas être la victime. Elle veut être celle qui est toujours batailleuse, qui va toujours de l'avant, qui réussit des choses incommensurables. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle parviendra à faire. Et alors, je voudrais mentionner le livre, deux livres d'ailleurs, le livre de Catherine Fremblin, la biographie vraiment de référence de Niki de Saint-Phal. Elle a été écrite par Catherine Fremblin. Il y a d'autres romans qui ont été écrits sur Niki de Saint-Phal, mais ils présentent la difficulté qu'on ne sait pas qui parle dans le roman, si c'est vraiment Niki de Saint-Phal qui a dit ça, si c'est l'auteur qui extrapole, donc c'est plus difficile. Mais la biographie, vraiment de référence, c'est celle de Catherine Fremblin. Et elle a également écrit un livre très récemment qui s'appelle donc Niki de Saint-Phal, un héros au féminin. Et là, elle explique ce que je viens de mentionner. Et je pense que c'est une interprétation plus importante que ce traumatisme auquel beaucoup voudraient la
réduire
son travail réduire et son la travail, violence ouais. Sa violence créative hein, qui en a résulté.
Alors, on l'a dit, elle a mis un peu de temps à être prise au sérieux, mais aujourd'hui, Niki de Saint-Phal, c'est une icône. Hein.
Alors, c'est vraiment une icône, ça je le constate avec l'exposition au Grand Palais.
Il y a beaucoup de monde.
Il y a beaucoup de monde, et c'est vrai que le nom qui attire, c'est celui de Niki de Saint-Phal. Hein.
Oui.
Indéniablement, elle est vraiment devenue extrêmement célèbre. Elle a vraiment gagné son pari, et c'est ça qui est merveilleux. Elle a gagné son pari d'atteindre tout le public. Il y a un film dans lequel elle dit « Je veux créer quelque chose de beau, je veux créer pour vous. » Et vraiment, elle y est parvenue et maintenant, le public a une grande familiarité avec son travail. Et ça, c'est un vrai bonheur de le constater.
Alors, toute dernière chose, car on n'en a pas parlé, son dernier grand projet, un jardin peuplé de sculptures monumentales, le parc d'Escondido, en hommage à la reine Califa, qui, selon une vieille légende espagnole, aurait donné naissance à la Californie. Est-ce que ce jardin a vu le jour ?
Ce jardin, oui, a vu le jour, mais alors il a été terminé après la mort de Niki de Saint-Phal. Il a été inauguré juste après la mort de Niki de Saint-Phal. Elle est morte en 2002 et je crois qu'il a été inauguré l'année suivante. Effectivement, bah, c'est son autre grand jardin de sculpture après le jardin des tarots dont on a parlé, qu'il avait occupé pendant près de 20 ans. Donc effectivement, c'est en Californie, c'est là que Niki de Saint-Phal habitait. Et elle rend hommage à cette reine un peu mythique qui aurait donné naissance à la Californie, donc c'est la dernière grande réalisation de Niki de Saint-Phal.
Bien, donc tout le monde au Grand Palais jusqu'au
4 janvier.
On le redit, 4 janvier, parce que si vous venez le 5, c'est fermé, c'est un peu vexant. Si vous dites, j'ai entendu le 10 à la radio. Non, c'est bien le 4. Voilà, merci infiniment Sophie Duplex. Au revoir.
Merci.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, Niki de Saint-Phal au cœur des nanas, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Doriminé.